Et vous êtes député Ensemble pour la République de Haute-Savoie. Bonsoir Antoine Armand.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Nous allons revenir sur la nomination de Richard Ferrand, qui a été approuvée de justesse à la tête du Conseil constitutionnel. Alors, il y a eu beaucoup de critiques à gauche, beaucoup de critiques à droite, mais il y a l'abstention du Rassemblement national qui a permis cette arrivée. Écoutez Richard Ferrand et puis l'annonce du résultat par la sénatrice Jourda.
Avoir partagé des engagements ne crée pas nécessairement un lien de vassalité. Et n'ai-je pas démontré, lorsque je présidais cette Assemblée, mon indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.
La commission des lois s'est donc prononcée sur la candidature de Richard Ferrand. 97 suffrages ont été exprimés. Le seul des 3/5 des suffrages exprimés est de 59. Et il y a eu 39 voix pour et 58 voix contre. Donc rien ne s'oppose à ce que le président de la République nomme M. Richard Ferrand au Conseil constitutionnel.
Donc il s'en est venu d'une voix. Richard Ferrand a rappelé son indépendance. Enfin, c'est quand même un ami du président qui arrive au Conseil constitutionnel rue de Montpensier, Alain Duhamel.
Oui, bah évidemment, c'est un ami du président, c'est même un ami très proche. C'est un de ceux qui l'ont le plus et le mieux conseillé. Ça ne veut pas du tout dire qu'il ait jamais été quelqu'un de dépendant. Au contraire, d'abord, il a très mauvais caractère. Ensuite, il n'était pas du tout toujours d'accord avec Emmanuel Macron. Quand il n'était pas d'accord, il le disait. Et quand Emmanuel Macron ne l'écoutait pas, ce qui quand même devait bien être une fois sur deux ou peut-être deux fois sur trois, il s'en allait, il était furieux. Et il boudait d'ailleurs. Donc oui, il est très proche. On peut même dire, entre politique, il est intime. Et non, il n'est pas dépendant. Pour le reste, il ne faut pas être hypocrite. Tous les présidents de la Ve République, à commencer par le général de Gaulle, ont tous nommé des très proches. Il y a une exception, je dis ça pour la petite histoire, enfin, ou l'histoire tout court d'ailleurs, qui est Valéry Giscard d'Estaing, qui lui a nommé deux juristes. Mais c'est le seul. Tous les autres, autrement, bon. Et puis, il ne faut pas se tromper. On dit ça va tout changer. Non, ça ne va pas tout changer. Le président du Conseil constitutionnel, c'est le primus inter pares. C'est pas le chef, c'est pas le leader. C'est celui qui mène les débats, qui les organise. Alors évidemment, par exemple, pour la désignation du rapporteur sur chaque texte, c'est important, son point de vue. Bon, mais il ne fait pas les décisions. Ça, c'est complètement de la blague. Et puis,
il est pas tout seul, hein, au Conseil.
Mais non, mais c'est ce que je veux dire. Ouais, ils sont neufs.
C'est les pas sages lui. De la rue de Montpensier.
Voilà. Bon. Et puis, quelles sont les alternatives? Avec d'autres résultats, si on prend l'exemple allemand, par exemple, pour leur tribunal constitutionnel, l'équivalent de notre Conseil constitutionnel, ce sont les groupes parlementaires qui votent pour désigner les différents candidats. Alors, si vous croyez que c'est plus impartial...
Enfin, en tout cas, merci le RN, Antoine Armand. Le copain du président peut dire merci au Rassemblement national de lui avoir permis d'arriver rue de Montpensier.
Je ne crois pas qu'on puisse le présenter comme ça.
Ah, il s'est abstenu, le Rassemblement national.
C'est au fond quelque chose de très classique. On l'oublie, mais c'est quelque chose de très classique. Il y a les prérogatives du président du Sénat, de la présidente de l'Assemblée nationale, du président de la République. Richard Ferrand est le candidat présenté par le président de la République, proposé par le président de la République. Puis le chemin institutionnel suit son cours. Et les institutions font que Richard Ferrand est nommé au Conseil constitutionnel. Et ensuite, vous assistez, je le vois depuis ce matin sans aucune naïveté, à une immense instrumentalisation politique. Certains font mine de découvrir que le président de la République propose quelqu'un qu'il connaît et dont il connaît les compétences et les qualités. C'est pas quelque chose qui me choque à titre personnel qu'on nomme quelqu'un, on propose quelqu'un dont on connaît les compétences, les qualités, l'expérience à l'Assemblée nationale et au-delà. Et vous avez l'extrême droite qui sent à nouveau qu'elle est marginalisée dans le débat, qu'elle n'est pas au cœur de cette décision, qui tente au dernier moment, sans doute pour déstabiliser les Républicains, j'entre pas dans la cuisine du RN, de tenter un va-tout pour essayer de faire exister cette situation qui, en fait, n'en est pas une. Alors, tout n'est pas clair chez les Républicains non plus, tout n'est pas clair dans le choix de la droite. Certains se sont abstenus, La position n'est pas très claire. Ce que je crois, c'est qu'il y a la réalité des institutions qui ne fait pas vraiment débat, et il y a la mousse politique dans le contexte.
La mousse politique, un peu étonnée quand même, abstention bienveillante.
Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses. La première, l'attitude du RN, ils ont décidé de ne pas déclarer la guerre à François Bayrou maintenant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne décideront pas le contraire dans une semaine, mais
Bon, ils n'ont pas voté
pour
la
l'instant,
censure.
Non. Bon, ce qui me frappe le plus politiquement, alors bien sûr, j'entends les cris d'orfraie de la gauche, c'est classique, c'est normal. Mais c'est toujours, hein, si c'est un président de droite, la gauche pousse des hurlements quand on nomme un président du Conseil constitutionnel. Si c'est un gouvernement de gauche, c'est la même chose de la part de la droite. Bon, donc c'est comme ça. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup plus, c'est l'attitude des Républicains. Parce que, d'une part, Laurent Wauquiez est parti vraiment en guerre, sabre au clair, et en le proclamant en public contre la nomination de Richard Ferrand. Tout le monde a très bien compris, et là, il n'y a pas besoin d'être un hyper spécialiste et un grand expert, qu'en réalité, il visait Emmanuel Macron pour toucher Bruno Retailleau. Et que, en fait, lui, il est président de groupe, il est libre de ses paroles, il est libre de ses actes, et il a de l'autorité sur ses troupes. Donc, il peut dire, on vote contre. Et évidemment, Bruno Retailleau, il est au gouvernement. Lui, il est obligé de garder le silence sur un point comme ça. Donc, Wauquiez a l'impression que, comme ça, il marque un point par rapport à Retailleau. Mais derrière ça, bien plus important que la question de savoir qui entre Bruno Retailleau et lui aura marqué un point à un moment donné, ce qui est de loin le plus important, c'est que ça veut dire que, foncièrement, les Républicains, par leur vote d'aujourd'hui, ont démontré qu'ils ne sont pas des alliés fiables du gouvernement, que ce sont des espèces de renforts épisodiques qui, selon leur humeur, sont capables de faire tomber le gouvernement aussi vite et peut-être plus brutalement encore que le Rassemblement
donc
national.
Il y a la guerre des chefs, ce que vous expliquiez entre Wauquiez et Retailleau, qui est la toile de fond de cette histoire, Antoine Armand.
Oui, ce qui est frappant, on a vécu à un autre moment, c'est le jeu que peuvent avoir certains responsables des Républicains avec nos institutions. Il y a un autre épisode qu'on a tous en tête. C'est la présidence de la Commission des affaires économiques où les Républicains ont permis à une candidate, la France Insoumise, de devenir présidente de la Commission des affaires économiques, alors même que LR appartenait au socle commun. Donc qu'on ait des désaccords, qu'on ait différentes sensibilités, on est dans une coalition, c'est tout à fait normal. Mais que un choix soit fait de mettre potentiellement, si ce n'est en péril, du moins en compromission, les institutions en favorisant la France insoumise il y a quelques mois, ici, en se mettant dans la main du Rassemblement national, c'est un peu dérangeant à mon sens.
Ça veut dire que ce sont des alliés auxquels il n'est pas possible que le gouvernement fasse confiance. C'est quand même, ça veut dire, c'est pour le gouvernement une fragilité, une vulnérabilité permanente. Alors, on a beaucoup dit ça du Rassemblement national pendant le gouvernement Barnier. Pendant le gouvernement aujourd'hui de François Bayrou, c'est le rôle qu'a choisi de tenir le Parti Républicain. Et moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, du côté de Laurent Wauquiez, j'étais sûr qu'il ferait quelque chose de ce genre, parce que c'est son tempérament, c'est son intérêt, donc aucun problème. Au Sénat, je m'attendais à ce que les sénateurs soient plus solidaires que ça de Retailleau, c'est-à-dire de non-offensive anti-gouvernementale. Et je me suis trompé. C'est pas comme ça qu'il a réagi.
On n'a pas d'ailleurs, sous votre contrôle, entendu Bruno Retailleau avoir une expression.
Il n'a rien dit.
Sur le sujet.
Il a raison d'ailleurs.
Ancien président du Congrès et par construction pas comme ministre de l'Intérieur. Ouais. On voit l'extrême difficulté et le choix qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'électeurs des Républicains qui sont
une voix
un peu perdus.
Pour Richard Ferrand.
Ben oui.
Une seule voix. Donc,
ça prouve la fragilité du gouvernement.
Bien sûr.
Et ça prouve.
Mais du coup, lui-même, Richard Ferrand, à la tête du Conseil constitutionnel, il y est pour 9 ans. Au Conseil constitutionnel. Et au Conseil constitutionnel, et une seule voix, est-ce qu'il est lui-même très fragile, Richard Ferrand, ou pas?
Pas du tout. Une fois qu'on est au Conseil constitutionnel.
Inamovible.
Chacun a son rôle, bien sûr.
Mais c'est vrai. Parce que l'opposition dit qu'il est illégitime, Richard Ferrand.
Là, à partir du moment où il n'y a pas eu les 3/5 des membres des commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale pour s'opposer à sa nomination, il est le président du Conseil constitutionnel et il le restera.
Je pense qu'il y a quelque chose qui est important de rappeler, parce qu'on voit dans les débats, notamment ceux de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, qu'on tente d'aller dans cette situation, on tente de rendre le Conseil constitutionnel coupable, complice d'une forme de politisation. En réalité, le Conseil constitutionnel, qui historiquement en France a un rôle très différent des cours suprêmes dans d'autres pays, a un positionnement où il s'agit de juger en fonction de la Constitution. Alors parfois ça agace.
Les textes qui sont votés au Parlement.
Les textes qui sont votés au Parlement, des questions qui sont posées. Parfois ça agace parce que notre Constitution a des limites. Mais le rôle de Richard Ferrand demain au Conseil constitutionnel des 8 autres membres, c'est toujours le même. Et il y a une Constitution, une jurisprudence qui l'encadre. Donc on veut faire jouer aujourd'hui au Conseil constitutionnel un rôle qu'il n'a pas. On veut lui prêter des intentions qu'il n'a pas eues et qu'il n'aura pas demain.
Il y a une petite phrase qui est restée célèbre. Alain Duhamel, c'est celle de Robert Badinter, lorsque François Mitterrand l'avait proposé au Conseil constitutionnel et qu'il était donc arrivé rue de Montpensier, il avait dit à François Mitterrand, je vais avoir un devoir d'ingratitude.
Et il a tenu parole, Robert Badinter.
Il s'est affranchi complètement de François Mitterrand.
Il y a un exemple célèbre, mais très important dans la réalité au moment où ça s'est passé. Quand s'est posé au Conseil constitutionnel la question de l'indemnisation des actionnaires de tout ce qui avait été nationalisé. Faut se rappeler qu'à l'époque, c'était quand même les principales banques et les principales entreprises industrielles. C'était pas des petites choses. Donc, la question de l'indemnité, c'était une question considérable. La gauche voulait que l'indemnité soit mince. Robert Badinter et les 8 autres membres, c'est pas lui qui a décidé, mais enfin, c'est lui qui était le président. Robert Badinter et les autres membres ont décidé que non, c'était pas ce niveau d'indemnité qu'il fallait, mais ils en ont donné un autre.
Et cette liberté, Richard Ferrand, c'est pas seulement une intention, il en a fait preuve quand il était président de l'Assemblée nationale, en rejetant certains amendements, certaines propositions qui n'étaient pas constitutionnelles, en animant les débats alors qu'il venait
donc,
de la majorité.
Donc, ce n'est pas un allié politique d'Emmanuel Macron qui arrive à la tête du Conseil constitutionnel.
Mais au Conseil constitutionnel, il n'y a pas d'allié politique. On n'est pas dans un système à l'américaine, on n'est pas dans un système où on choisit les gens pour leurs convictions politiques.
Je voudrais quand même, parce que ceux qui nous suivent, qui nous regardent, vont quand même entendre l'opposition du canon politique, les oppositions, et dire on a compris la manœuvre, le Rassemblement National s'est abstenu parce que avec Richard Ferrand, au moment où il va y avoir l'inéligibilité peut-être de Marine Le Pen prononcée par le tribunal, eh bien il y aura une question de priorité constitutionnelle
et prioritaire
et à ce moment-là Richard Ferrand va arranger Madame Le Pen pour qu'elle puisse quand même être éligible.
Ben ça c'est de la blague parce que ils sont 9. Bon, parmi ces 9, il y a un certain nombre de gens qui sont de sensibilités différentes, mais de toute façon, ils ne sont pas censés, et dans la réalité de tout ce qu'on sait de leurs travaux, parce qu'on en sait quand même beaucoup sur les travaux, notamment après coup, ils ne prennent pas position les uns et des autres en fonction de leurs convictions politiques, mais en fonction de la façon dont ils jugent chacune des affaires. Et ça n'est pas Richard Ferrand qui va arriver, qui va s'installer au fauteuil du fond entouré des huit autres et qui va leur dire « voilà la réponse ». Pas du tout. Et ça sera un consensus avec un rapporteur, des discussions, un vote, et puis on verra. Mais le seul moment où le président du Conseil constitutionnel a un vote décisif, c'est s'il y a égalité 4 et 4. Hein, là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise la majorité, c'est ça. Mais c'est absolument rarissime.
Il n'y a pas de magouille avec Madame Le Pen en perspective.
Et puis, bon, de toute façon, magouille, qu'est-ce que ça serait? Qu'ils se rencontrent clandestinement pour dire « vous me décidez ceci et pas cela ».
À propos de l'inéligibilité.
Écoutez, c'est très simple. Il faut avoir un tout petit peu de mémoire récente. Quand il y a eu la loi sur l'immigration qui a été votée, le Conseil constitutionnel a annulé plein d'articles.
C'est vrai.
Hein ? Et la droite a dit, le Conseil constitutionnel, c'est une assemblée de gauche scandaleuse. Quand il y a eu la loi sur les retraites, ça a été exactement l'inverse. Le Conseil constitutionnel a annulé un certain nombre d'articles, et à ce moment-là, la gauche a dit, voyez comme il est partial. Bon, une fois la gauche le trouve partial, une fois la droite le trouve partial, ça signifie qu'il fait son travail et qu'il est autonome.
Et c'est là que les mots de certains responsables LR sont assez inquiétants, parce que ce sont les mêmes mots que ceux de la France insoumise. Un pseudo-complot, un pseudo-accord secret, tout ce qui bascule dans le complotisme, le populisme qui n'a pas cours, pas sur ce genre de sujet sur lequel en plus les institutions se sont prononcées, est très dangereux. Et à chaque fois que les LR reprennent les mots de LFI, ils devraient s'interroger sur la portée de leurs gestes.
Merci messieurs.